Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Caton. Bonjour, comment ça va?
Allô, ça va bien toi?
Très très bien, très contente de te recevoir à mon micro et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tu es auteure, illustratrice et BDiste. T'as étudié l'art visuel au cégep de Sainte-Foy et t'as quitté Québec en 2010 pour Montréal dans le but de faire un baccalauréat à l'UQAM en art visuel. Est-ce que tu dessinais très très jeune? Est-ce que ça faisait partie de ton quotidien?
Oui, absolument. Tous mes souvenirs incluent le dessin. Là, on dirait que c'était vraiment quelque chose que je faisais depuis que j'étais enfant. Mais c'est un peu comme autour des années où j'étais allée au cégep et à l'université en art où j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Je faisais pas vraiment de dessin à l'école comme à l'université, mais c'était tout le temps quelque chose que je faisais comme à côté. Puis c'est sûr que mes études, ça m'a aidé à bonifier ça là aussi.
Et pendant le bac, t'as suivi justement un atelier de bande dessinée avec Jimmy Beaulieu au Cégep du Vieux-Montréal. Est-ce que c'est ça qui a changé justement ton parcours en tant que créatrice?
Oui, absolument. En fait, je suis pas la seule à avoir eu cette expérience-là. Là, autour de moi, il y a comme beaucoup d'auteurs à Montréal qui ont fait cet atelier-là. Puis ce que ça m'a permis de faire, c'était pas comme un cours vraiment classique où Jimmy nous montrait des techniques de bande dessinée pendant 3 heures. Là, il y avait quelques techniques, mais c'était aussi beaucoup comme chacun travaille sur son truc, puis lui, il passe, puis il fait des commentaires vraiment comme spécifiques sur qu'est-ce qu'on fait. Puis aussi, surtout, ce qui a changé quelque chose pour moi, c'est que c'est à cet endroit-là que j'ai commencé à rencontrer d'autres auteurs de bande dessinée, puis des gens qui voulaient faire ça dans la vie. Puis j'ai découvert que ce milieu-là à Montréal est assez petit, mais il est extrêmement accueillant. Comme c'est vraiment un milieu où les gens sont vraiment dans la transmission, puis le partage. Puis je venais, c'est ça, plus des arts visuels. Puis je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus hostile là, comme comme milieu. Puis je sais pas, je suis vraiment juste tombée en amour avec ces gens-là, puis ce milieu-là. Fait que naturellement, j'ai fait comme un genre de passage vers ce milieu-là.
Mais pendant cet atelier-là, est-ce que tu faisais les illustrations et le texte aussi?
Oui, c'est ça. On travaillait sur comme une publication qu'on allait faire à la fin comme de l'atelier, tous ensemble. Fait qu'on était encouragés à travailler sur un ou deux petits projets. Puis pour moi, c'était comme un peu la première fois que je prenais le temps de travailler sur quelque chose de plus long. Tu sais, il y a des auteurs de bande dessinée que dès leur tendre enfance, ils faisaient des pages et des pages de bande dessinée. Moi, j'étais comme ben trop paresseuse pour faire ça. C'est vraiment difficile, puis j'aimais mieux comme juste faire du dessin, comme des petites bandes dessinées, un peu comme pour faire rire mes amis, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, je vais mettre comme plus d'efforts, je me mettre à plus y réfléchir, puis à prendre ça plus au sérieux. Puis c'est là que j'ai commencé à aussi penser à faire des fanzines ou faire des choses plus avec plus de travail pour partager sur un blog ou ce genre de choses-là pour faire de la diffusion le plus.
Et c'est là qu'en 2011, tu as publié ton premier fanzine auto-édité, 3 secondes plus vite, qui a été nommé pour le prix BDiste indépendant. Oui. Et t'as lancé par la suite avec Iris le blog La liste des choses qui existent, qui a donné lieu à 2 publications en 2013 et en 2015, et à une intégrale en 2018. Et vous avez même fait une web-série en collaboration avec La Pastèque, où le livre était publié, l'ONF et Télé-Québec. Oui. On le sait, la bande dessinée, c'est très long à faire. J'ai l'impression qu'une web-série, c'est encore plus long.
Oui, des étapes extrêmement différentes aussi là. C'est drôle de penser à tout le chemin que ce projet-là a fait là. Quand moi et Iris on a commencé à travailler sur ce projet-là de blog, on se connaissait à peine,
ah, okay.
On venait de se rencontrer. Puis pour mieux se connaître, on a décidé de faire un blog ensemble. Puis là, c'est ça a fait que j'ai sorti avec elle mon premier livre. Puis c'était fait un peu comme pas rapidement parce que c'était pris vraiment au sérieux, mais comme tu sais, c'est divisé comme en petites capsules. Chaque capsule dans le livre est sur un objet du quotidien. Puis là, c'était un peu comme on se mettait en scène, tout ça. Mais on faisait chacune ça un peu de son côté. Puis, tu sais, on s'était divisé comme les objets. Puis on se surprenait un petit peu chacune en se montrant nos pages. Fait que c'était assez, tu sais, simple comme façon de procéder. Puis là, avec la web-série, c'est sûr qu'on peut plus travailler comme chacune dans notre coin. C'était vraiment un gros travail d'équipe. C'est vraiment un métier, tu sais, différent. C'est pas nous qui faisions l'animation. Nous, en fait, c'est surtout Iris qui a qui a scénarisé puis réalisé, comme avec un de nos animateurs, Francis Papillon, qui était réalisateur aussi. Puis c'est ça, c'est beaucoup de back and forth, là, mettons, avec les producteurs aussi, pour s'assurer que, comme pour le poste de télé, c'est correct aussi. Puis vu qu'on avait eu une subvention jeunesse, fallait aussi transposer le contenu en contenu plus approprié pour la jeunesse, parce que il y avait du contenu quand même un peu crunché, là, dans le livre.
Vraiment, puis les idées des objets, c'est venu comment? C'est parce que vous aimez ces objets-là, puis vous aviez envie d'en parler?
Oui, je pense qu'on est, juste comme allé au café une journée, puis on a fait un brainstorm de, comme, c'est quoi les objets qui pouvaient être intéressants, surtout parce qu'on voulait des fois parler un peu de l'historique des objets, fait que, tu sais, c'était des informations vraies puis des informations inventées, comme mélangées. Fait que, mais ça aidait quand même si l'objet avait un historique réel intéressant. Fait que des fois, comme, on allait un peu chercher sur Internet, voir, ah, il y avait-tu potentiellement comme des choses qu'on pouvait utiliser. Mais ça s'est fait assez rapidement. Là, on a fait une liste, puis après ça, selon qu'est-ce qu'on avait envie de faire, on s'est divisé, comme, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. Puis ça s'est fait en toute amitié, très simplement.
Moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire, qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et tu as également publié d'autres ouvrages, Les cousines vampires avec Alexandre Fontaine-Rousseau en 2014, Les ennuis de Lapinette en 2015, Mimose et Sam tombent trois tombes, en fait, en 2016, 2018, 2019, Les ananas de la colère que j'ai adoré en 2018, Les enquêtes de Scooby-Doo en 2020, Le dessin trop mignon avec Roxane Brouillard en 2023. Et là, tu nous reviens avec Salade de fruits. C'est un recueil de strips prépubliés sur les réseaux sociaux entre 2017 et 2024. Pourquoi avoir eu envie de publier sur les réseaux sociaux et par la suite de vouloir en faire un livre?
C'est arrivé un peu naturellement, les réseaux sociaux. En fait, c'est ça, dans le bon vieux temps, autour de 2011, j'avais seulement un blog, parce que c'était ça qui était un peu à la mode chez les auteurs. Puis ensuite, ça s'est comme déplacé vers les réseaux, d'abord Facebook, et ensuite comme Instagram. Puis c'est vraiment une façon, en fait, faire des strips, c'est ça qui va le plus loin pour moi, là, dans ma pratique. J'ai l'impression que même quand j'étais ado, c'est un peu une genre de version de strip que je faisais. C'est des idées qui me viennent vraiment au quotidien, qui sont plus autobiographiques, inspirées de choses que j'entends dans la rue, de choses que mes amis font ou disent. Puis, fait que c'est toujours une pratique que j'ai eue. Puis là, de pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux, on dirait que ça permet d'avoir comme un dialogue avec les gens qui me suivent, vraiment plus instantané que quand je sors des livres.
Essayais-tu d'avoir une constance de, après tant de jours, j'en publie une?
C'est assez libre, vu que j'ai déjà beaucoup d'obligations, tu sais, et puis des deadlines avec les livres que je fais. J'ai l'impression que ça, c'est une partie de mon travail où est-ce que quand j'ai une idée, je fais quelque chose, quand ça me tente. Puis c'est vraiment, ça reste tellement dans le plaisir à cause de ça, comme il n'y a aucune obligation. C'est sûr que avec les réseaux sociaux, des fois on se dit, tu sais, c'est un peu addictif, puis on est comme, ah, oh, je devrais, comme, ça fait longtemps que j'ai posté, je devrais mettre quelque chose, on a peur que les gens nous oublient, fait que un petit peu ça, mais en même temps, j'attends vraiment, tu sais, d'avoir une idée que ça me tente de réaliser, puis j'ai des notes dans un petit cahier comme exprès pour ça, avoir des idées pour en faire. Mais ça donne, c'est ça, un peu une instantanéité, parce que sinon, les livres, ça me prend à peu près comme... un livre jeunesse, ça me prend 6 mois à faire. Un livre pour adulte, peut-être des fois 1 an. Fait que avant d'avoir des commentaires là-dessus, ça peut être un peu long, là.
Et une strip, ça peut te prendre combien de temps à faire?
Ça peut être... Selon la longueur, ça me prend un après-midi, tu sais. Des fois, je me rends compte que ça prend toujours plus longtemps que je pense, là. Je pense tout le temps que, ah oui, je vais faire ça en 1 heure, ça va être fini. Finalement, c'est tout le temps super long, là. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais pendant ma journée. Ça prend une partie de la journée seulement.
C'est-tu parce que t'aimes vraiment peaufiner ou c'est que tu calcules mal ton temps quand tu dis « ça va me prendre juste 1 heure »?
C'est que je regarde pas l'heure quand je fais ça. Quand j'ai vraiment du plaisir, en fait, je sais pas combien de temps ça me prend pour travailler parce que je suis juste pas au courant. Je regarde jamais vraiment, mais c'est ça, j'aime prendre mon temps, mais c'est que je travaille traditionnel encore, vraiment sur papier, comme, fait que là, je fais un crayonné, tu sais, de mon strip au crayon de plomb super pâle, puis là, je l'encre, après ça, je le scanne, puis tu sais, je l'arrange tout le temps un petit peu, comme sur Photoshop, pas en changeant le dessin, mais tu sais, pour que ça soit comme une belle qualité, puis toutes ces étapes-là, finalement, prennent plus de temps que je pense, là.
Mm-hmm. Et salade de fruits, pourquoi ce titre-là?
Je trouvais ça drôle que ça évoque un peu un mélange de différentes choses, comme un petit tutti frutti. Puis aussi, il y a des blagues qui rappellent les fruits, comme à l'intérieur du livre, finalement, il y a...
Des bananes.
Des bananes, notamment des blagues de bananes qu'on met dans le congélateur pour faire du pain aux bananes.
Que tu ne fais jamais.
Que je fais jamais de ma vie.
Si tu me permets, Kata, on s'arrête et au retour, je veux qu'on continue de parler de salade de fruits.
Parfait.
Ici Mélissa Perron, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
J'ai toujours accompagné de mon invité de la semaine, Caton, et j'ai oublié de vous dire que Mimons et Sam, il n'y a pas trois tons, mais il y en a quatre. Caton m'a corrigé durant la pause. Et là, je veux qu'on continue de parler de salade de fruits. Dans l'ouvrage, on suit tes tribulations à travers de courtes bandes dessinées où tu nous invites à t'accompagner dans ta vie de tous les jours comme si on était ton ami. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu étais mon ami et que tu me racontais ton quotidien. C'est vraiment ça que tu veux faire avec tes strips?
Oui, ben en fait, c'était pas vraiment mon intention quand je faisais ça, mais c'est vrai que c'est ça que j'ai comme retour des lecteurs, le fait que comme on sent, peut-être le fait que c'est autobiographique, puis c'est assez intime, les gens se sentent assez proches de moi quand ils lisent ça, ils ont l'impression après ça de me connaître un peu déjà quand ils me rencontrent, puis ça me fait plaisir en fait parce que c'est comme si ça faisait un peu boule de neige comme effet parce que quand les gens arrivent, ils se sentent déjà bien avec moi, ils ont tendance à me parler plus quand ils me rencontrent, comme ils me donnent des anecdotes, puis c'est un peu de ça que je me nourris finalement pour faire ces strips-là. Fait que c'est comme si ça fait une genre de roue infinie de, je sais pas, de contenu puis d'inspiration, là.
Et comme c'est ta vie de tous les jours, on retrouve ton entourage, tes amis, les gens que tu côtoies pour le travail. Est-ce que tu leur demandes la permission pour qu'ils se retrouvent dans les strips ou non?
Pas vraiment. Non, j'assume que c'est correct quand c'est des... Tu sais, il n'y a rien de vraiment gênant. Souvent, c'est une chose vraiment drôle et brillante que mon ami a dit. Fait que là, j'assume que la personne va être contente de bien paraître ma bande dessinée.
Mais je repense à Sophie, ta collègue.
Ah oui?
Chez Fanfare. Ta malmène en maudit, Sophie. Là.
Oui,
Tu lui as demandé la permission?
En fait, j'ai pas eu besoin parce que Sophie, de son côté, là, c'est drôle parce que quand je fais des bandes dessinées sur d'autres auteurs, ce qui paraît pas dans le livre, c'est que sur leurs propres réseaux sociaux, ils ont fait aussi des bandes dessinées pour me répondre. Donc, Sophie Bédard, sur son Instagram, pour chaque bande dessinée que j'ai faite sur elle, qui disait à quel point je l'haïs, elle aussi, elle faisait des bandes dessinées pour dire à quel point j'étais têteuse, puis qu'elle m'haïssait, puis que comme... C'est ça. Fait que, comme c'est vraiment des blagues, parce que moi et Sophie, on s'adore, là. Mais à chaque événement où on était ensemble, c'était comme... Toutes les deux, on riait, puis on avait hâte de faire enfin comme d'autres bandes dessinées où est-ce qu'on allait saillir. Fait que c'est comme plus un échange que moi qui attaque Sophie.
Mais quand on le sait pas, on sent comme un petit malaise. Oui. Puis je me disais, Sophie, elle doit pas triper quand on la ramasse comme ça dans sa BD.
Non, en fait, Sophie est vraiment meilleure que moi pour faire des bandes dessinées, pour dire qu'elle m'haït. Comme elle avait vraiment de la facilité à faire des bandes dessinées super drôles comme ça. Puis moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux dire de méchant sur Sophie? Sophie a pu. Comme j'avais de la misère à trouver du contenu à un certain point. Mais c'est drôle parce que ces bandes dessinées-là, il y a comme... On dirait deux types de personnes. Il y en a qui trouvent que c'est les meilleurs du recueil, comme toutes les bandes dessinées où est-ce que j'haïs Sophie. Ils trouvent ça super drôle. Puis il y en a d'autres qui sont comme, oh non, ça me met mal à l'aise. Est-ce que vous vous aimez pas pour vrai? Comme c'est vraiment triste.
Ben moi, ça me met un peu mal à l'aise. Mais oui, là, sachant que Sophie embarque dans la folie, ben là, c'est clair oui. Que c'est très drôle.
Oui.
Et tantôt, on parlait de Iris. Tu abordes beaucoup ton amitié avec Iris parce que je pense que toutes les deux, vous créez beaucoup ensemble. Puis je pense que vous vous apportez l'une et l'autre. Puis on voit à quel point cette amitié-là est forte, là.
Oui, c'est ça. En fait, elle aussi, de son côté, a fait beaucoup de strips qui me mettent en scène, là, quand on va dans des chalets ensemble pour travailler, quand on travaille ensemble. Fait que ça aussi, c'était comme vraiment un beau dialogue qu'on avait avec ces strips-là. Puis j'aime ça parce que ça fait un effet un peu de journal intime. Après ça, quand on retourne là-dessus, comme on se rappelle de plein d'affaires qu'on a faites ensemble, comme des running gags qu'on avait. Fait que juste d'avoir ces strips-là dans mes affaires, puis là, qu'il y ait un recueil, on dirait que pour moi, c'est vraiment, c'est ça, comme un livre de photos presque, là, un album de photos. Puis justement, on a fait, je pense que c'était il y a peut-être 2 ans, un fanzine qui était juste de strips de notre amitié, comme qui s'appelait « Mélange festif », qui est la traduction française de Party Mix, les chips. Fait que c'est quelque chose que les gens nous demandaient des fois parce que ça... ça me touche vraiment que les gens soient deviennent comme investis un peu par cette amitié-là, comme qu'ils voient aller. Fait que ouais, c'était vraiment un plaisir de pouvoir comme faire un recueil de toutes ces strips-là.
Et comment t'as choisi ce qui allait se retrouver dans le recueil?
J'ai pas mal tout mis, qu'est-ce que j'avais. Il y a certains vraiment vieux strips autour de 2017 où est-ce que j'avais pas encore vraiment décidé comme d'un format ou comme de... J'utilisais plusieurs outils différents dans mon cahier. Fait qu'il y en a plus les plus vieux. Des fois, je les ai redessinés un petit peu ou comme je les ai changés pour qu'ils fitent plus dans le recueil. Puis il y en avait que j'ai fait à ce moment-là qui était comme qui fitait pas visuellement dans Salade de fruits. Que le format était comme juste pas adaptable puis que ça me tentait pas vraiment de redessiner parce qu'il fitait moins. Fait que ceux-là, je les ai un peu laissés de côté. Mais sinon, tout ce qui vient après, comme 2018-2019, c'était tout le temps dans des cahiers du même format que je dessinais, pas mal avec les mêmes outils. Fait que tout, c'est... Je pense qu'il y en a un ou deux que j'ai relus, puis j'étais comme « ça, c'est pas très drôle ». Fait que je les ai pas mis, mais sinon, tout, c'est qualifié, là.
Et ce qui revient aussi beaucoup, c'est justement le confinement, la COVID, qui a eu une importance, je crois, dans ton métier de créatrice, là.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. Il y a certaines bandes dessinées, peut-être les plus intimes, qui sont liées à la COVID, parce que, ben, j'étais vraiment pas la seule, mais pendant le confinement, comme c'était vraiment dur de créer, on était tout le temps chez nous, toute cette source d'inspiration-là qui est comme parler avec les gens, entendre les gens parler autour de moi, ne serait-ce que entendre, tu sais, parler à la caissière de l'épicerie comme tous les jours, tu sais, ça, on n'avait plus ça. Fait que j'ai eu un vraiment gros blocage parce que j'avais l'impression que j'avais plus d'énergie, comme j'étais super déprimée, comme tellement de monde pendant cette période-là. Fait que ça devenait vraiment difficile de créer pour des livres. Fait que je pense que des fois, je me suis dit, ah, un strip, c'est comme une petite bouchée comme de travail, on peut faire ça puis s'exprimer, puis ça a pas besoin d'être des super hauts standards de qualité, tu sais, ça peut être juste c'est ça, un petit morceau. Fait que ouais, c'était un des sujets vraiment, ben il y en a des sur la dépression, mais il y en a aussi que c'est juste drôle quand c'est ça, ma sœur me disait qu'elle regardait son coloc faire des chin-ups sur la galerie à moins 30, puis elle a mangé du caramel dans la maison en le regardant par la fenêtre, comme ce genre de situation là que je me faisais raconter.
Ou je repense moi une scène où tu racontes que t'attends à de plus en plus de jours pour monter le chauffage, puis là, les couches s'accumulent, oui, sur toi pour pas avoir à monter le chauffage.
Oui, oui.
Ça, c'est très drôle. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? C'est les gens qui t'entourent?
Oui, il y a beaucoup ça. C'est beaucoup, beaucoup ça. Je pense que j'ai tout le temps... Si j'ai pas mon cahier de strip, il y a mon cell là, qui est toujours... Il y a une application de notes qui est tout le temps ouverte, dans laquelle je note des fois juste des petits détails. C'est un peu instinctif, comme j'entends quelque chose puis je sens que ça ferait un bon strip, comme c'est rendu un peu, c'est ça, vraiment instinctif.
C'est
que, oui, c'est ça, que, ou avec juste la pratique, vu que j'en ai fait tellement, je le sais que je vais réussir à découper ça pour que ça ait un bon punch puis tout ça. Fait que j'accumule comme beaucoup de petites histoires comme ça, puis après je reviens quand j'ai envie d'en dessiner, puis je suis comme « Ah, qu'est-ce que je ferais bien? » Puis là, je peux piger dans ces petits morceaux-là de casse-tête.
Et la création, est-ce que tu peux faire ça n'importe où? Il faut vraiment que ça se fasse chez toi?
Pour mes livres, c'est plus spécifique, comme quand je veux vraiment m'installer, tu sais, souvent c'est sur des plus grandes feuilles. Mettons que je fais des Mimos et Sam, tu sais, c'est vraiment au crayon de plomb, puis là, je viens les mains sales, puis comme je veux avoir tous mes outils proches, puis être bien installée pour pas me blesser, fait que là, je préfère être à la maison, sur mon bureau, tu sais, avec ma bonne chaise, puis tout ça. Mais les strips, ça se fait vraiment n'importe où, comme je traîne ce cahier-là, partout où est-ce que je vais, des fois, comme je le sais que je vais pas à quelque part pour travailler, mais j'amène mon cahier de strip. T'as coup que j'aurais comme un genre de petit 10 minutes pour faire ça. Comme je l'amène au café, je l'amène chez mes parents quand je vais les voir. Comme c'est vraiment... ça peut se faire sur un coin de table. C'est vraiment le fun pour ça.
As-tu déjà commencé à travailler sur une nouvelle bande dessinée?
Oui, en fait, là, je commence à travailler sur Mimos et Sam 5. Fait que c'est comme en cours de scénarisation. Puis après ça, souvent j'ai tendance à vouloir alterner livre jeunesse, livre plus adulte, ben adulte. Les enfants les aussi mais livre adulte là, mais mettons livre pour papa. Fait qu'après ça, j'essaierai de je sais pas encore lequel je voudrais faire. Là, j'ai plusieurs idées de livres pour adultes pour les prochaines années, mais...
Quand t'as des idées comme ça, tu notes juste comme le synopsis, puis ouais. après, quand t'as le temps, là, tu vas t'installer puis tu vas le créer, c'est ça?
Ouais. Puis des fois, quand c'est comme une idée plus grande, ben que j'ai déjà beaucoup de matériel, c'est ça, j'aime beaucoup le papier, là, fait que des fois, quand j'ai une idée de livre sur laquelle je veux travailler, mais sur le long terme, j'ai vraiment comme un cahier spécifiquement dédié à ce livre-là. Puis là, je vais prendre des notes. Il me vient une affaire, je prends le cahier, je note dedans, je le resserre. Fait que je peux travailler sur des choses comme ça pendant longtemps. Là.
Et quand tu commences, mettons une bande dessinée, comme par exemple Les Ananas de la colère, est-ce que tu fais chacun des personnages pour qu'après, t'aies une idée à peu près de quoi ils ont de l'air pour après commencer la BD ou ça se fait vraiment...
Ouais, en fait, les étapes, c'est... Pour Les Ananas de la colère, mettons, j'avais justement ce petit cahier-là d'idées que je faisais juste noter plein de petits flashs que j'avais à l'intérieur jusqu'à temps que j'en aie comme plusieurs pages. Après ça, Je notais comme un genre de scénario, mais écrit super laid. Juste comme, il se passe ça, ensuite il se passe ça, elle dit ça, il se passe ça. Pendant ce temps, il se passe ça. Puis là, une fois que j'avais ça... là, vraiment vite, je veux passer à faire un genre de storyboard, parce que je suis pas capable d'écrire juste un scénario comme on écrirait un scénario de cinéma, là, juste écrit. On dirait qu'il faut absolument que je découpe les images en même temps que je découpe le texte. Fait que pour ça, vraiment vite, je vais avoir tendance à comme, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme du design de personnage. On dirait que quand je suis rendue là, je veux vite avoir décidé pour commencer à dessiner vite. Fait que je pense que sur une page de mon cahier, j'ai fait des croquis de chaque personnage en forme géométrique au début, juste pour être sûr qu'il y ait des formes vraiment différentes les uns des autres. Puis après ça, avec ça, je suis allée commencer à faire mes croquis là, de chaque page de la bande dessinée. Puis après ça, c'est comme faire la bande dessinée plusieurs fois. Là, on fait un storyboard, c'est-à-dire toute la bande dessinée sous forme de croquis vraiment rapide. Puis là, c'est là qu'on place comme qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque page, qu'est-ce que les... Moi, à ce moment-là, j'écris comme à peu près le texte final. Puis après ça, je vais refaire toute la bande dessinée plus propre en crayon de plomb super pâle. Puis après ça, je vais tout en créer. Fait que c'est comme faire la bande dessinée 3-4 fois.
Puis après ça, t'ajoutes le texte, là, final.
Le texte est en même temps que l'ancrage. Là, je vais l'écrire aussi comme en même temps.
Ah, c'est intéressant. Mais merci beaucoup. On s'arrête, puis dans quelques instants, on va parler de tes coups de cœur littéraires.
Ici Sophie Lorrain. Vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
On est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon invité de la semaine, Caton. Et on commence avec quoi, Caton? Qu'est-ce que tu as envie de présenter aux auditeurs?
En fait, j'avais préparé deux recommandations. La première, ça serait juste le travail en général de Julie Delporte. C'est celle-là. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse parce que les deux auteurs dont je vais parler sont publiés aussi aux éditions Papa.
Mais moi, j'adore Julie Delporte.
Oui!
Moi aussi!
Parfait! C'est ça, c'est peut-être aussi que vu qu'ils sont dans ma maison d'édition, je vois un petit peu plus de leur processus puis je peux leur parler plus souvent. Fait que peut-être que pour moi, ça bonifie aussi l'expérience. Mais les trois livres qu'elle a publiés chez Papa, c'est Journal, Moi aussi, je voulais l'emporter et Corps vivante. C'est trois livres ben vraiment différents les uns des autres, mais on la reconnaît beaucoup là dans son style dessiné comme au crayon de couleur. La forme est un petit peu comme éclatée, c'est pas de la bande dessinée avec des cases puis tout ça. Puis ça traite de toutes sortes de choses, comme il y a des éléments de sa vie personnelle, il y a beaucoup de discussions autour du cinéma, des figures féminines, du féminisme. Donc c'est vraiment des lectures, je trouve, un peu obligatoires. Là, ces temps-ci, c'est beau, c'est bon, comme j'ai juste des belles choses à dire là-dessus.
Et je pense que c'est des livres qu'on doit relire plusieurs fois, les livres de Julie, pour vraiment tout assimiler.
Oui, absolument, je suis vraiment d'accord. Puis la deuxième recommandation que je voudrais faire, c'est un livre un petit peu plus... Ben, ça fait pas des millions d'années que c'est sorti, je pense que c'est 2014, autour de ça. C'est un autre livre chez Papa qui s'appelle « Chronique du Centre-Sud » de Richard Suicide. Puis je trouve que c'est intéressant à lire... je sais pas, particulièrement maintenant qu'il y a comme des discussions autour de la gentrification puis des différents quartiers, comme à Montréal notamment, on suit comme un personnage qui s'appelle le Bison Bourré, qui vit dans Centre-Sud. Puis il y a le personnage de Richard aussi, qui est comme tout autant un genre de personnage étrange du centre-sud, puis c'est... on suit ce gars-là qui était son voisin, ça parle beaucoup du quartier, des genres de d'établissements vraiment classiques de ce quartier-là, de comment c'était fait, comme dans le temps un peu, puis c'est fait avec tellement de, c'est vraiment drôle, mais c'est fait avec beaucoup de bienveillance, comme j'ai l'impression que c'est pas tout le monde, en fait j'ai l'impression qu'il y a juste Richard que je connais qui aurait pu faire ce livre-là, puis ça reste vraiment mon livre préféré chez Papa depuis les 10 dernières années. Là, c'est, j'ai de la misère à trouver les mots pour le décrire parce que c'est vraiment particulier, puis c'est vraiment particulier au travail de Richard. Mais si vous aimez, c'est ça. Si vous connaissez ce quartier-là ou même si vous le connaissez pas, je trouve que c'est vraiment une lecture intéressante. Là.
Et c'est pas encore celui-là comme une vraie bande dessinée traditionnelle.
Oui, puis c'est assez. Le style de Richard, c'est très. Il faisait de la bande dessinée même dans les années 90, dans la période où est-ce que il y avait comme de la bande dessinée underground à Montréal, puis il garde vraiment ce style-là, comme vraiment typé un peu dans le style de Gilles Doucet. Ça rappelle ça beaucoup. Puis, je sais pas, c'était... Je pense que c'était un peu le premier auteur que je lisais qui avait ce style-là, puis qui m'a comme introduit à ce style-là de narration aussi. Puis, je sais pas, je me tanne pas de ce style-là. Là, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Es-tu une grande fan de bande dessinée? Est-ce que c'est quelque chose que tu consommes beaucoup?
Oui, absolument. Ben, j'aime beaucoup la lecture en général, mais j'avoue que la bande dessinée, comme quand j'en ai des nouvelles à lire, ça reste pas longtemps sur ma pile. Là. C'est comme les premières affaires que je dévore, comme en une journée, c'est fait. Puis j'arrive pas à comme... Je sais pas trop... Tu sais, des fois, j'ai des livres à lire, comme des romans, de la poésie. J'ai hâte de les lire, mais ils peuvent rester sur ma pile. Puis je suis comme, ah, j'ai hâte de les lire. La bande dessinée, comme, je vais les manger tout de suite. Là. Ça se peut pas d'attendre. Là.
Et beaucoup de tes collègues québécois?
Oui, je pense que c'est souvent mes auteurs préférés. Comme c'est sûr que c'est plus proche de moi. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de bandes dessinées franco-belges aussi. C'est ce qui se rendait beaucoup, tu sais, à la bibliothèque quand j'étais petite. Fait que c'est quelque chose qui est proche de mon cœur aussi. Maintenant, je lis aussi beaucoup de bandes dessinées indépendantes américaines, canadiennes, anglaises. Fait que c'est assez varié.
Mm-hmm. Et au niveau du roman ou de la poésie, ça ressemble à quoi, tes lectures? Est-ce que c'est vraiment québécois, ça aussi?
Oui, en fait, ouais, ça m'intéresse beaucoup. C'est ça, la littérature québécoise, c'est aussi comme des auteurs que j'ai l'occasion de croiser. Fait que des fois, on dirait que...
Il y a un attachement.
Oui, il y a un attachement, il y a un intérêt comme supplémentaire. C'est ça. Puis, mais en fait, aussi en roman, j'ai comme un genre de petit soft spot pour la littérature de genre aussi. Les romans policiers, comme les Agatha Christie, j'aime vraiment ça, comme surtout les traductions françaises d'Agatha Christie, parce que c'est super daté, comme c'est vraiment typé, il y a des genres de clichés dont je me régale vraiment, là, puis qui m'inspirent beaucoup pour écrire mes bandes dessinées après, parce que le ton est tellement comme maniéré, ça me...
Moi, je vois le lien avec les Ananas de la colère. Là.
Oui, c'est ça, c'était une grosse source d'inspiration pour moi.
Ah, c'est intéressant. Mais merci beaucoup, Caton, pour les belles suggestions. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se retrouve pour la conclusion.
Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield.
C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Louis Robitaille. Bonjour Louis, vous allez bien?
Oui, très bien, merci. Vous-même, Amélie?
Très, très bien. Et on commence ce mois-ci avec « Mais pourquoi l'école » de Simon Bucci-Wheaton, publié chez K.O. Éditions.
Bon, alors, Mais pourquoi l'école, ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage collectif publié sous la direction, justement, de Simon Bucci-Wheaton. Il est détenteur d'un baccalauréat en animation culturelle. C'est un animateur culturel. Mais en septembre 2019, sa conjointe, qui enseigne dans une école primaire, lui téléphone pour dire « Ah, le directeur cherche de toute urgence quelqu'un pour enseigner en sixième année, etc. » Alors, il a répondu présent à cet appel. Il est donc devenu un des nombreux enseignants non légalement qualifiés, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est qu'il a beaucoup aimé ça. Il a tellement aimé ça, finalement, qu'il a décidé d'aller se qualifier, faire les études nécessaires pour obtenir sa qualification légale. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est qu'il était bien placé pour voir tous les problèmes de l'école. Mm-hmm. Alors, il s'est mis à écrire des textes. Il s'est mis à écrire des textes comme ça, pour lui. Et il a décidé de les publier, finalement. Mais, tant qu'à faire, il a décidé de faire appel à 17 collaborateurs différents. Bon, j'imagine que peut-être celui s'est sollicité davantage de personnes. Mais en tout cas, finalement, il y a 17 collaborations sont des gens très connus, par exemple, comme Emmanuel Bilodeau, Ricardo Larrivé, Claudia Larochelle, David Goudreau, Joshua Bengio, Léa Streliski, l'humoriste, là, la sœur mm-hmm. d'Alexandra Streliski. Bon, alors, c'est intéressant. Ça, évidemment, avec un ouvrage pareil, je dirais que ça tire dans toutes les directions, là. Mais non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai particulièrement aimé le texte de Joshua Bengio, qui est le pape de Montréalais de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que son texte était vraiment très, très, très intéressant. Claudia Larochelle aussi, à propos de l'amour des livres, finalement. Donc, c'était vraiment bien. La plus grande partie du livre, quand même, ce sont des textes de Simon Bucci-Wheaton lui-même. Mais je dirais plus entre un tiers et la moitié. Mais le reste, ce sont les collaborateurs. Alors, pour les gens qui s'intéressent au sort de l'école, ben c'est une bonne lecture, vraiment.
Et je vois que la préface est signée Normand Baillargeon, un autre qui connaît bien le milieu de l'éducation. Là.
Effectivement, il enseignait à l'UQAM. C'est un philosophe de l'éducation. Et puis, en effet, d'ailleurs, Simon Bucci-Wheaton explique qu'il était tellement content que Normand Baillargeon accepte de préfacer son livre. Il était tout excité à cette idée. Je le comprends.
On rappelle le titre, c'est « Mais pourquoi l'école de Simon Bucci-Wheaton » publié chez K.O. Édition. Et là, on poursuit maintenant avec « Sur tes traces » de Harlan Coben, publié chez Bellefond.
Bon, alors là, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est un roman américain, c'est un roman policier de Harlan Coben que certains des auditeurs probablement doivent connaître. Mm-hmm. Il est très, très prolifique. Si je compte bien, « Sur tes traces », c'est son 25e ouvrage, rien de moins, qui est paru en français en octobre dernier. On considère ça comme un roman policier, mais enfin, c'est un roman policier, celui-là. En tout cas, je connais pas les autres, hein, j'avoue. Je le connais de nom depuis longtemps, mais c'est la première fois que j'en lis un. Et il y a des policiers, mais ils ont un rôle de soutien, je dirais. Non, le personnage principal, c'est quelqu'un qui est victime d'une erreur judiciaire. C'est un homme qui a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre, absolument horrible d'ailleurs, de son fils de 5 ans. Alors, il va s'évader pour prouver son innocence. Et là, l'intérêt du récit, c'est qu'il va sillonner les États-Unis pour... sa quête d'innocence l'amène à sillonner les États-Unis. Et tout ce temps-là, ben il est recherché, évidemment. Il est un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Alors, évidemment, c'est tout à fait... C'est compliqué. Mais enfin, finalement, il va y avoir un happy end. Ça va bien se terminer. Et là, on va comprendre que finalement, il avait été l'objet d'une sombre machination, vraiment, là. Je dirais que quand on regarde l'histoire avec un petit peu de recul, ben, c'est une histoire un peu abracadabrante. On se le cachera pas vraiment, là. Mais c'est très bien ficelé. Alors, on se laisse prendre, le rythme est tout à fait haletant. Alors, c'est pour les amateurs de polar, c'est une très, très bonne lecture aussi. Et puis, d'ailleurs, même si je me décris pas moi-même comme un grand amateur de polar, ben, j'ai beaucoup aimé ça, effectivement, parce que j'ai été très, très, très captivé. Puis, je trouve ça intéressant aussi que pour une fois, on n'ait pas la structure habituelle du roman policier avec le policier qui fait une enquête, etc. Bon, voilà.
Mm-hmm. On rappelle le titre, c'est « Sur tes traces » de Harlan Coben, publié chez Bellefond. Et là, on y va avec un roman québécois, je crois que c'est son premier. Ça s'intitule « La soif que j'ai » de Marc-André Dufour-Labbé, publié chez Cheval Doux.
Bon, alors non, c'est son deuxième roman en réalité. Il en a écrit un autre qui s'appelle « Karaté Kid ». Je dis bien, c'est pas « Karaté Kid », c'est « Karaté Kid ». « La soif que j'ai », c'est son deuxième. Marc-André Dufour-Labbé, c'est un homme qui est quand même assez polyvalent. On dit qu'il a étudié en anthropologie, en politique, en théâtre, en littérature. Et aujourd'hui, on apprend qu'il travaille dans un centre d'aide pour hommes en difficulté dans les cantons de l'Est. Mais je pense que son travail vraiment lui a inspiré le personnage principal, qui est aussi le narrateur de son roman. Ce narrateur se nomme Éric Boucher. C'est un vendeur d'auto. Un vendeur d'auto à qui je ne ferais pas tellement confiance. C'est pas qu'il est à proprement parler voleur ou malhonnête, mais c'est le genre de vendeur qui va convaincre quelqu'un sans le sou de s'acheter le modèle le plus coûteux, tu sais, ce genre de choses-là. Là, tu sais, bon. il est veuf. C'est un homme assez jeune, je dirais autour de 30 ans, mais malgré tout, il est veuf, et père d'une petite fille d'à peine un an. Il est un peu pocheux sur les bords aussi, comme il fournit ses clients sont des vieux qui résident dans une RPA ou dans un CHSLD, ça j'ai pas très bien compris. Son loisir préféré, c'est des séances de beuverie absolument incroyables avec ses deux meilleurs amis. Alors, on le devine, c'est que c'est un père irresponsable presque à 100%. Je lui laisserais peut-être un petit 10%, là, tu sais, bon. Alors, Bien entendu, ça lui occasionne des ennuis avec la DPJ et il va être très sérieusement menacé de perdre la garde de sa fille. Puis je dois dire d'ailleurs que même si c'est un roman, il ne faut pas s'identifier, c'est pas. Mais quand on lit ça, il est tellement catastrophique comme père que malgré tout l'amour qu'il a pour sa fille, qu'on a quasiment hâte que la DPJ lui enlève la garde de son enfant. Mais finalement, ça ne sera pas le cas. Ou enfin, on n'est pas trop... Le dénouement n'est pas très, très clair. Mais enfin, on voit... Le récit montre comment il travaille fort pour s'améliorer, en particulier cesser de boire, devenir sobre. Et c'est ça, le roman, c'est l'histoire de son combat, en quelque sorte. Si c'était juste ça, je sais pas si j'aurais aimé ce livre-là tant que ça, mais c'est parce qu'il y a quand même un ingrédient supplémentaire qui apparaît pas dès le début et qui est assez quelque chose qui est assez intriguant, effectivement. C'est il plane une espèce de mystère au sujet de la mort de sa femme. Il est veuf, hein, je l'ai dit, bon. Et puis là, à un moment donné, on comprend que sa femme est morte dans un accident d'automobile. Mais on comprend qu'elle est morte accidentellement, mais on n'est même pas sûr que c'est un accident d'automobile au début. Mais enfin, semble-t-il que ça l'est. Mais à la fin, on comprend ce qui s'est produit vraiment. Et c'est intéressant parce que ça contribue à expliquer son comportement. C'est quelqu'un qui a été complètement traumatisé par le décès tragique de son épouse. Et il ne s'en est jamais remis et il s'en va à volo. C'est épouvantable. Évidemment, ça ne l'excuse pas, mais ça explique bien des choses cependant. Alors, c'est un roman intéressant. Puis, je le rappelle, là, quand on pense que l'auteur travaille dans un centre d'aide pour hommes, ben mon Dieu, je pense que c'est vraiment là qu'il a puisé l'inspiration de cette œuvre-là.
On rappelle le titre « La soif que j'ai » de Marc-André Dufour-Labbé. Et on termine brièvement avec « Au nom du frère Requiem américain, tome 2 » de Jean Côté, publié chez Flammarion Québec.
Oui, alors c'est ça. Ben, en fait, ce roman-là, « Au nom du frère », c'est la deuxième partie de « Requiem américain ». Et moi, je n'ai pas lu le premier roman qui s'appelle, lui, carrément « Requiem américain ». Mais je pense qu'on n'est pas censé avoir besoin de l'avoir lu. Mais je pense que peut-être que ça aurait été mieux parce que moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés avec la quantité de personnages. Peut-être que si j'avais lu la première partie, j'aurais été mieux préparé. En tout cas, mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui est policier au service de police de la ville de Montréal. Il fait partie de l'escouade anti-gang, autrement dit, qui lutte en particulier contre les motards criminalisés. Et ça s'appelle « Au nom du frère », ben c'est ça, c'est parce que, comme par hasard, son frère est quasiment le boss des Hells Angels. Alors évidemment, ça le met dans des situations assez particulières, et c'est ça, je pense, qui fait l'intérêt du récit. Mais je vais faire un aveu, j'ai pas réussi à le terminer, c'est parce qu'il y avait tellement de noms, à un moment donné, j'en pouvais plus, il aurait fallu que j'aie un tableau, je savais pas, bon, celui-là, là, c'est qui, est-ce que c'est un policier de la police de Montréal, ah non, c'est quelqu'un de la SQ, non, c'est peut-être un bandit. Alors, je m'y perdais complètement. J'ai regretté de ne pas avoir lu la première partie pour pouvoir suivre. Alors, finalement, je le dis carrément, là, les amateurs de polar vont adorer ce livre, c'est sûr.
Mais moi, je l'ai beaucoup aimé.
Ouais, ben, c'est ça. Je n'en doute pas. Mais moi j'ai démissionné, je l'avoue, pour les raisons que je viens d'expliquer.
Mais il n'y a aucun problème. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est justement me rappeler les souvenirs de comment ça se passait dans le milieu des motards dans les années 90. Ça me rappelait certains souvenirs. Puis on pouvait faire un peu une comparaison, mais un peu avec comme Caïn et Abel avec les deux frères. Là.
Ah mon Dieu, j'avais pas réfléchi à ça. Mais ça s'inspire de faits réels, comme il y a une petite fille qui meurt par accident lors d'une explosion. Mais ça s'est produit, ça, dans les années 90. Ça a déclenché une guerre anti-motard incroyable. Il y a un petit gars de 5 ans qui s'était fait tuer par accident par une bombe mise par des motards criminalisés. Alors, c'est bien inscrit dans la réalité montréalaise, c'est vrai.
Bon, rappelle le titre. Merci beaucoup, Louis, pour les belles suggestions. Au nom du frère, Requiem américain, tome 2, de Jacques Côté. Merci.
Au revoir.
Ici Audrey Wilhelmy, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon invité de la semaine, Caton. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? J'ai l'impression la promo de salade de fruits.
Oui, absolument. Je vais être au Festival de bande dessinée de Montréal avec salade de fruits pour le dédicacer, le présenter.
Et on aura même une animation ensemble le 24 mai.
Oui, une entrevue dessinée, oui.
Ça, absolument. Ça risque d'être fort intéressant de te voir dessiner, là.
Oui, comment j'ai hâte d'essayer de faire ça. Oui, ouais, vraiment.
Et est-ce que tu vas aller dans les salons du livre avec le livre?
Oui, en fait, j'ai aussi une autre, un autre salon, ben, en tout cas, à Vancouver. au mois de mai, puis après ça, c'est sûr que je vais continuer de faire la tournée plus tard. Je vais être au Salon de Montréal cet automne. Je fais souvent les gros salons du livre, là. Je suis souvent là.
Je pense que ton travail t'amène beaucoup à voyager et aller beaucoup à la rencontre des lecteurs. En lisant Salade de fruits, moi, je me suis rendu compte à quel point il y a des festivals de bande dessinée. Je savais pas qu'il y en avait autant.
Oui, c'est vraiment le fun. J'adore faire... faire des petits voyages comme ça au Québec, puis tu sais, un petit peu comme aux États-Unis, un petit peu au Canada anglais, comme ça me nourrit beaucoup de rouler ma bosse un petit peu avec mes livres, là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une belle partie de mon travail.
Et est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux pour les gens qui voudraient peut-être t'écrire pour faire des commentaires ou suivre ton parcours d'artiste?
Oui, absolument. J'ai une page sur Facebook, qui s'appelle Caton Bande dessinée et illustration, je pense. Puis je suis aussi sur Instagram. Je suis assez active sur Instagram, en fait. Là, il y a beaucoup de... Je continue de publier des strips là-dessus régulièrement.
Bien, merci beaucoup d'être dans l'émission et moi, j'attends tes prochains livre avec impatience.
Merci beaucoup.
Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram, sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine. À la semaine prochaine.